Alors je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est ce que dit Jésus en Jean 14, 6. C'est une affirmation de son être qui est importante. Quand le Seigneur dit « je suis » ou qu'il dit « je suis quelque chose », »,« je suis la porte », »,« il est la lumière du monde », »,« je suis le chemin, la vérité, la vie », »,« je suis le bon pasteur », ou il dit carrément fortement « si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ça dit quelque chose de très fort sur son identité. Je rappelle que Jésus, quand il dit « je suis » en Saint Jean, il reprend l'affirmation de la révélation du Dieu qui s'est fait connaître à Moïse dans le buisson ardent, qui lui demande qui il est, et il dit « je suis celui qui est ». Il y a plusieurs interprétations pour comprendre ce verset, c'est-à-dire celui qui accompagne, qui fait alliance, celui qui sera, mais aussi la plénitude de l'existence, c'est-à-dire celui qui est la source de la vie et qui génère toute vie. Et Jésus reprend à son compte ce verset puisqu'il est Dieu, « je suis », il le dira un moment très fort, et puis il va décliner cette compréhension de sa divinité en plusieurs attributs, dont un triptyque très fort, « chemin, vérité, vie » dans Jean 14, 6. Et donc nous pouvons à la fois regarder chaque mot « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie » comme quelque chose en soi. On peut méditer sur Jésus comme chemin, comme vérité, comme vie. Et on peut aussi méditer dans un crescendo, chemin qui conduit à une plus grande vérité, qui conduit à la vie. Et aussi, on peut les combiner, la vérité qui nous invite à cheminer et qui nous fait grandir dans la vie, ou alors la vie qui nous pousse à cheminer et à approfondir dans la vérité. Plein de formules sont possibles parce que c'est des absolus en Dieu, c'est le Christ lui-même toujours. Alors nous allons méditer sur cela. Pourquoi ? Parce que nous avons célébré il y a quelque temps le baptême du Christ, nous allons bientôt rentrer dans le carême. Et il est bon de se mettre à la suite du Christ, à le Christ qui s'est mis en marche pour annoncer le mystère du royaume, pour parler au nom du Père à son époque et qu'il continue à parler à travers nous et en nous. Et donc, c'est bien d'entendre ces versets-là et de les vivre. C'est bon pour nous, c'est bon pour ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation. Ces versets aussi, nous allons voir, on peut y voir les vertus du baptisé. Les vertus théologales, foi, espérance, charité, elles sont inscrites un peu dans ce verset. On va voir ça, en quoi c'est un chemin, la vérité et la vie. Elles sont aussi le cheminement de tout chrétien qui est une invitation pascale à passer de la mort à la résurrection. Voilà. Là, on va s'arrêter sur chacun maintenant. Je suis sur le chemin. Jésus nous dit « je suis le chemin ». Les premiers chrétiens, on les appelait les disciples de la voie, V-O-I-E, les disciples du chemin. Voilà, c'est-à-dire ils avaient compris que le Seigneur faisait faire un chemin. Et la vie chrétienne, c'était une vie de chemin, d'initiation. Profondément, la vie chrétienne n'est pas une vie statique, elle est toujours en mouvement. Jésus, dès le départ, quand il propose de l'accompagner, il dira aux premiers disciples, « suis « venez et vous verrez. » Il dira à Philippe, « suis-moi. » Donc il y a un mouvement. Ce mouvement-là fait partie de la foi. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'est pas bougé, qui n'est pas interpellé dans sa vie, que ce soit géographiquement, que ce soit dans un mouvement de conversion, le mouvement de conversion c'est métanoïa, en grec c'est retournement, il y a du mouvement. On ne peut pas dire que c'est une vie chrétienne. La vie chrétienne c'est du mouvement. Ce n'est pas que de la connaissance, c'est du mouvement. C'est même d'abord du mouvement qui amène à la connaissance, le chemin qui amène à la vérité. Profondément, le Seigneur nous rejoint dans ce mouvement. Il l'initialise. Quelqu'un a dit « tu ne me désirerais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Le mouvement, c'est notre désir. Thérèse d'Avila dit que la première chose pour aller vers Dieu, c'est le désir, un grand désir de Dieu, une ferme détermination, rentrer en mouvement. Et en même temps, c'est Dieu qui inscrit en nous ce désir de le connaître, de nous questionner, de vouloir le rencontrer. Et Dieu, en même temps, nous accompagne ce surmouvement. il le suscite en nous, il nous laisse libre d'y répondre, viens, suis-moi, ou n'y répond pas. Et en même temps, il nous accompagne, comme nous pouvons le voir, par exemple, dans les pèlerins d'Emmaüs, en Luc 24, il les rejoint sur leur route, pour, alors que le Christ est mort, et eux sont déçus, et ils n'ont pas encore fait l'expérience du ressuscité, et le ressuscité les rejoint. Donc, dans le chemin que Dieu suscite en nous, il nous rejoint. Et profondément, le Seigneur est mouvement. Dieu est dynamique en lui-même. Quand il parle du Saint-Esprit, il peut parler de lui. Tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu es accompagné, tu es poussé à. Et Jésus lui-même est poussé. Il reçoit le Saint-Esprit pour sa mission publique. Et à ce moment-là, il est poussé au désert. Donc le Saint-Esprit pousse, Dieu nous pousse. Il est mouvement en lui-même. Donc c'est normal qu'il soit chemin, qu'il soit dynamique. La vie chrétienne, c'est une vie du coup de mouvement, où on est tiré vers Dieu, accompagné, mu par Dieu, et en même temps, c'est une vie de progression. C'est-à-dire, il n'y a pas un chemin au départ qui ne s'approfondira pas. Le chemin s'approfondit forcément, et on comprend l'expérience chrétienne qu'en l'approfondissant. C'est plus à nouveau une expérience qu'une connaissance. C'est important. Je reprendrai cette phrase dans le film célèbre Matrix numéro 1, Morpheus qui dit à Néo, le jeune Néo qui veut être dans l'illumination, il lui dit « Une chose est de connaître le chemin, autre chose est d'arpenter le chemin. » Bien souvent, nous chrétiens, nous pouvons connaître la vie chrétienne, mais est-ce que nous cheminons chrétiennement? Est-ce que nous prenons le chemin? Et ce chemin, c'est ce que dit Philippe à Jésus, « Montre-nous le chemin. » Et Jésus lui répond, « Je suis le chemin. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le Christ, le Seigneur, veut nous dire qu'il nous rejoint là où nous sommes pour nous accompagner. Ça veut dire que le chemin que j'ai à faire, il est devant moi avec Jésus. Il n'est pas ailleurs, il est devant moi dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé ni dans le futur, il est maintenant. La vie chrétienne, c'est la rencontre dans l'instant présent de Jésus. Et dans ce chemin, le Seigneur nous invite à l'imitation de Jésus, c'est-à-dire imiter son humanité, le fait qu'il se montre comme lui-même le chemin, c'est-à-dire que nous pouvons imiter son humanité pour lui ressembler, et en lui ressemblant, nous avons la solution à notre question de sens, la vérité, et notre question de bonheur, la vie. Donc véritablement, Jésus ne propose pas d'autre chemin que son imitation. Il n'a pas dit « faut que tu prennes à droite, à gauche », il dit simplement « tu me suis, tu m'imites, là où tu es ». Et Jésus se propose comme le chemin universel parce qu'il est Dieu et parce qu'en l'humanité de Jésus, il y a plus de richesses que pour toutes les vies de tous les hommes de tous les temps. Donc c'est inépuisable, donc chacun peut imiter. Donc il n'y a pas un chemin que tout le monde devrait uniformément suivre, il y a une multitude de chemins qui correspond à l'unique chemin que Jésus nous propose. Parce qu'il contient tout dans son humanité. Et on peut le suivre. Et c'est la grande tradition qui consiste à imiter les mystères de Jésus, de la vie de Jésus. Vous trouvez ça dans le chapelet, mais vous trouvez ça aussi quand vous méditez une scène évangélique. Vous rentrez dans l'imitation de Jésus. Nous allons voir, je reviendrai aussi sur cette idée de progressivité sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur nous rejoint là où nous en sommes, et nous ne sommes pas forcément parfaits, nous ne sommes pas forcément saints, mais le Seigneur nous demande de faire le petit pas où nous en sommes. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas le pas infranchissable, c'est juste devant nous le petit pas, c'est celui-là. Et quand le Seigneur dit « viens, suis-moi », il nous invite à voir le pas réel que nous pouvons faire, et non pas le pas rêvé que jamais nous ne pourrons faire, sauf la grâce de Dieu. Et aussi, il est intéressant de voir que si nous croyons avancer, il faut repérer rapidement, et c'est progressif, qu'en réalité, c'est Jésus qui nous attire et qui nous montre le chemin. C'est plus du « laisse-toi conduire » que du « je vais te suivre envers et contre tout ». Il y a effectivement une volonté de notre part et dès le départ, elle doit être affirmée. Je veux te suivre, mon désir. Je négocierai rien d'autre, je prends le chemin. Mais en même temps, nous voyons de plus en plus, si nous prenons ce chemin, que c'est plus « laisse-toi conduire » que « c'est toi qui pilote ». La vérité. Souvent, nous voyons la vérité comme quelque chose d'un concept, l'intelligence, une question de notion. C'est pas complètement faux quand Jésus dit ça, mais il dit plus que ça. On pourrait dire, ça s'apparente beaucoup plus à « on sent que c'est vrai ». C'est de la vérité expérimentale, c'est de la vérité vécue, c'est du réel. Vous voyez, quand quelqu'un semble saisi par quelque chose, a l'air d'être très heureux, d'avoir une forte expérience, vous sentez que c'est vrai, même s'il n'y a pas forcément les mots. On pourrait dire que ça va au-delà des mots. Et bien ça, c'est l'expérience de la vérité. Jésus ne nous propose pas d'abord un contenu intellectuel, mais de faire l'expérience intérieure d'une certitude forte. Mais nous allons développer un peu ce qu'est cette vérité. Cette vérité correspond profondément à la quête de sens que nous avons. Elle peut être intellectuelle, elle peut être morale, elle peut être esthétique, elle peut être philosophique de tout ordre, elle peut être sur toutes les questions qu'on se pose de savoir. Pourquoi ? Parce que Dieu est la source du savoir. Parce que Dieu, le savoir, la manière dont les choses sont organisées, dit quelque chose de l'harmonie qui est en Dieu et sa cohérence. Je rappelle que le Verbe, quand Dieu dit « et le Verbe s'est fait chair », c'est la personne de Jésus, en grec c'est « logos », c'est la raison, le discours. Donc il est par excellence le discours. Donc quelqu'un qui cherche à sa manière, cherche de la raison, du rationnel, et cherche Jésus, sans le savoir. Parce que Jésus est la source de la raison, il est l'intelligence pure. Ok, ça c'est pour l'aspect rationnel. Mais on va voir que c'est une intelligence qui est plus forte que du contenu, elle nous saisit et nous transforme. Cette intelligence qui à la fois nous rejoint dans ce que nous pouvons connaître du réel, à travers tous nos champs d'investigation, mais aussi de manière surnaturelle, à travers la parole de vérité, guidée par l'esprit de vérité, qui nous montre Jésus comme vérité, nous est donnée dans la parole de Dieu, qui, je rappelle, est l'écriture et la tradition. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous est donnée dans l'écriture, dans la Bible, dans les saintes écritures, et dans le magistère de l'Église et toute la tradition, dans les docteurs, dans le magistère du pape, etc. Et là, il nous est donné une parole de vérité qui nous éclaire sur un sens plus profond et qui rejoint le sens que nous pouvons avoir commun, mais qui l'éclaire, le corrige, le purifie et le fait grandir. Mais ce n'est pas encore simplement que du savoir intellectuel, c'est du savoir qui saisit. C'est pour ça que j'ai pris cette petite bougie. On pourrait parler de la vérité comme de la lumière. Jésus dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » On voit aussi que la lumière peut éclairer et elle est même capable de vaincre toute obscurité intellectuelle, tout doute, parce que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, nous dit le prologue de Saint Jean. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui chemine, qui imite le Christ, qui prend le chemin, qui arpente le chemin, les concepts de la foi, du credo, de la tradition de l'Église, de la parole de Dieu, vont progressivement s'éclairer. Et dans l'éclairage de la lumière qui est le Christ vérité et lumière, on ne va pas simplement comprendre intellectuellement, c'est déjà un premier pas, on va être éclairé, notre intelligence, mais on va être illuminé, saisi, brûlé progressivement par la lumière de vérité. Ça veut dire qu'on va comprendre de l'intérieur ce que la foi nous enseigne. Et donc, j'allais dire, il ne faut pas d'abord se dire « je crois, je n'ai pas compris ce que je crois ». Creusons notre foi, croyons, et nous allons comprendre l'intelligence de la foi de l'intérieur. C'est ce que disent les saints. Crois pour comprendre, et non pas essaye de comprendre pour essayer de croire. Rentre dedans, c'est une expérience. Crois pour comprendre. Chaque mot, chaque partie du credo, chaque parole de Dieu, chaque verset contient un potentiel d'expérience. Rentre dedans, chemine, tu vas comprendre de l'intérieur, ça va t'illuminer. Et puis quand tu vas comprendre de l'intérieur, tu approfondiras aussi avec ton intelligence. Comprends pour mieux croire encore, mais en second. Et ça va nous éclairer. Et nous voyons en fait que le cheminement chrétien, c'est bien une progressivité vers quelque chose. Et donc, du coup, il est très important de placer la vérité que Jésus nous dit, qui nous est enseignée par l'Église, parce que c'est parole de Dieu, comme un point, comme une ligne de mire sur notre parcours. Ça veut dire, et j'aime à dire, ne nous trompons pas de vérité, ne nous trompons pas de lumière. Ou alors, ce n'est pas parce que je ne comprends pas toute la lumière que je dois l'atrophier. C'est valable pour les questions morales, c'est valable pour les questions de foi, c'est valable pour tout. Pourquoi ? Parce que le risque est le suivant. Si j'atrophie un peu la lumière va moins m'éclairer, je serai moins transformé. Et celui qui est moins touché par la lumière, par la vérité, est moins libéré. Jésus le dit lui-même en Jean 8, 32, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous cheminez dans ces paroles, vous les imitez, vous les intégrez, vous connaîtrez la vérité, expérience d'illumination, et la vérité vous rendra libre. » Donc celui qui atrophie dès le départ la vérité sous prétexte qu'il ne peut pas la vivre, en réalité, va être moins libéré. Mais celui qui se dit « je ne peux pas aller jusqu'à toute cette vérité, ce n'est pas grave, Jésus m'accompagne là où j'en suis pour faire le petit pas. » Laisse-toi guider. Désire avancer, ne perds pas le cap de la vérité. Même si tu ne peux pas tout rejoindre, avance, le Seigneur nous conduit. Et pas forcément toujours en ligne droite, ça peut être en zigzag, ça peut être en cabossage. Ou comme dirait Thomas d'Aquin, il y en a qui ne sont pas parfaits sur le chemin. Ils trébuchent, mais ils ne se sont pas trompés de route. Tandis qu'il y en a qui ne semblent jamais trébucher, mais sont sur un autre chemin. Ce n'est pas forcément le vertueux absolu qui fait le meilleur chemin. C'est celui qui a décidé de placer la lumière de Dieu, du Christ, et d'être guidé, quoi qu'il arrive. Donc nous voyons un principe de gradualité qui est inscrit dans la morale chrétienne, c'est-à-dire que le Seigneur, bien sûr, nous dit la vérité pour nous orienter. Et il ne tergiversera jamais sur la vérité, parce que c'est lui-même. Il ne peut pas se mentir. Il présente ce qu'il est, la vérité qui sanctifie. Et oh, soyez saints car je suis saint. Mais dans notre chemin, parce qu'il est bon, il nous rejoint là où nous sommes pour nous avancer dans l'illumination. Et donc il nous faut intégrer le fait que d'abord ce qui est premier, c'est la foi en Jésus-Christ, au-delà même de principes moraux qui nous sont, que nous pouvons réaliser ou pas. Ce n'est que second, ce n'est qu'une conformité à la lumière qui nous fait rentrer dans ces principes, pour imiter de mieux en mieux Jésus. Ce qui est premier, c'est l'annonce, ce n'est pas l'inverse. C'est très important. Et quand nous imitons, est-ce que nous avons l'impression simplement d'imiter par nous-mêmes ou d'être conduits ? Voyez ? Est-ce que nous avons l'impression d'être conduits dans un chemin de transformation ou simplement d'imiter pour se construire soi-même ? Il y en a qui peuvent connaître la vérité, mais se dire « je me construis un état-major sur place, bien nickel, tout, invulnérable, puis le jour où ça pète, on recommence sans fin ». Mais ce n'est pas ça. Il y en a qui vont rester pauvres toujours, mais qui avancent. Et ça, c'est la vraie vertu. Vous voyez ? C'est le chemin qui nous est proposé vers la lumière. Et nous voyons que cette lumière, elle illumine, elle libère, de fait, elle purifie. Si c'est du feu, ça purifie. Donc des fois, quand on chemine, il faut élaguer des choses. Donc sur le chemin, Jésus nous prend tel qu'on est, puis à un moment donné, il dit « tu peux lâcher telle chose ». « Ah non, là c'est dur, oui mais tu n'avanceras pas plus sinon ». Ah bon, ah bon ? Donc il y a des lâchements, il y a des appauvrissements. Il y a des moments où, de fait, la lumière, on est en pointe de mire, mais on peut passer dans un tunnel. Il semblerait qu'on ne la voit plus. Mais comme elle nous a assez saisis, on ne peut plus faire le chemin en arrière. C'est-à-dire, on se dit, avant j'étais dans des fausses lumières, et ça brillait artificiellement. Aujourd'hui, j'ai la lumière, mais il semblerait que la lumière m'a laissé pour un temps. Non, non, elle ne m'a pas laissé pour un temps. Mais si j'ai un passage de tunnel, c'est pour être mieux purifié et la mieux la voir après. Je pourrais reprendre l'exemple de la montagne. Vous voyez, quand nous sommes dans le village en bas, il y a plein de lumière. De jour, de nuit, il y a plein de lumière. Il y a des boutiques, il y a des affiches, il y a des lampadaires. On a tout ce qu'on veut. Mais l'air est vicié. Il semblerait qu'on respire mal. Alors on va monter un peu de plateau en plateau sur la montagne. On ne va pas tous les jours au marché. On ne va pas tous les jours devant les lampadaires, les affiches. Et petit à petit, l'air est plus calme, plus pur. Mais c'est coûteux, ça demande un effort. Il faut suivre le chemin. Alors des fois, le Seigneur nous demande de nous arrêter sur un plateau. Alors on voit le paysage qui a été fait. Et puis des fois, on continue, il y a de la nuée. On ne voit plus très bien. Et à ce moment-là, il y a un doute. On se dit, j'étais mieux avant, c'était plus confortable. Il y avait les lumières, c'était plus cool. Mais en fait, nous voyons à ce moment-là ce que nous avons perdu, mais nous ne voyons pas ce que nous gagnions. Et puis des fois, nous avançons, on nous dit, mais la lumière, elle est où ? Et nous pouvons entendre ce que dit Jean de la Croix, « Je ne suivais le chemin, alors je le connais en espagnol, je vais le traduire en français, sans autre lumière que celle qui brillait dans mon cœur. » C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes assez saisis pour la lumière pour sentir intérieurement où nous sommes guidés. Et nous faisons une ascension sans cesse. Et puis un jour, nous n'aurons plus besoin de la lumière, car nous le verrons face à face. Nous aurons atteint la haute montagne, nous aurons dépassé le voile des nuages, le voile de la foi, et nous verrons le soleil. Et nous verrons à ce moment-là que la lumière que nous avons gagnée n'a rien à voir avec le petit village et les petites lumières. Et donc il y a une ascension qui est comme ça, et des fois le chemin est rocailleux, des fois il est bien, etc. Et nous voyons du coup que nous pouvons comparer le chemin à la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, c'est la vertu qui fait marcher. La vérité, ça serait la lumière, c'est la vertu de foi. Je vais en parler, les trois. Et la vie, c'est la charité. Je n'ai pas parlé du tout de la vie. Jésus dit qu'il est la vie. Il dit en Jean 10, 10, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » On parle de l'Esprit Saint comme un esprit qui pousse, qui guide, un esprit de vérité, mais aussi un esprit de vie. Dieu est la source de la vie, c'est-à-dire il donne l'existence, il donne la plénitude. Mais il nous veut pour nous pas une vie rabougrie, une vie de saint, une vie pleine, dense. Et Jésus est venu pour cette vie. C'est pour ça qu'il propose un chemin d'imitation. C'est pour ça que quand nous connaissons la vie, nous voulons y adhérer. Celui qui adhère à la foi, je rappelle que la foi, c'est pas simplement une idée, c'est un contenu qui nous est donné par l'Église, ok. Mais si je saluais la main de Françoise, je toucherais sa main, mais quand je pose un acte de foi, je touche Dieu plus fortement que je vous serre la main. Parce que c'est un contact avec Dieu, la foi. Et ce contact, dans un acte de foi sincère, est transformant, communique la vie divine, la vie de grâce. C'est la charité. Et donc, nous devons vivre de vie divine. Un chrétien qui ne vit pas de vie divine, c'est un chrétien athée pratique ou un athée qui a de la culture chrétienne, mais pas quelqu'un qui est transformé. Il nous faut vivre de vie divine. Jésus le dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit ça en Jean 15. « Si vous ne demeurez pas en moi, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. » Donc il y a un désir de Dieu de communiquer sa vie pour nous faire vivre. Et donc il nous faut comprendre que nous sommes atrophiés, que souvent nous croyons que la vie réelle, c'est la vie entre guillemets sans Dieu. Et qu'un chrétien, c'est une personne un peu hors norme qui a la foi. Il nous faut comprendre ce chemin d'ascension en partant au départ d'une certitude, une conviction, même si nous ne l'expérimentons pas tout de suite. Que, en réalité, la vie surnaturelle, la vie sainte, c'est le bon fonctionnement de l'être humain. De vivre avec celui qui est la vie. Et de celui qui ne vit pas avec celui qui est la vie, il survit simplement. Et donc, c'est véritablement « j'ai besoin de prier ». J'ai besoin de m'unir sacramentalement à Jésus dans l'Eucharistie, dans la confession. J'ai besoin de tous les sacrements de l'initiation pour vivre. J'ai besoin de prier, de la messe. Pourquoi ? Parce que c'est pour acquérir la vie divine. Et une fois que j'ai la vie divine, j'ai besoin de la diffuser autour de moi. Parce que c'est le mode des vivants. Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants. Il diffuse sa vie partout. Ça, c'est normal. Au départ, on pourrait se dire, c'est un effort d'être vivant, effectivement. C'est un effort de prier, ça le sera toujours, parce que nous sommes des êtres un peu survivants et un peu atrophiés qui avons du mal à choisir la vie. Comme dit le psaume 1, choisis la vie. Mais on a du mal à la choisir, cette vie. Mais pourtant, il nous faut nous forcer, si nous croyons, il nous faut marcher des fois, et des fois nous forcer à choisir, à être dépendant de la vie divine. C'est très très dur d'être dépendant. C'est-à-dire des fois, je dois m'arrêter pour me ressaisir en Dieu. Bien sûr, je peux faire sans Dieu. Mais je ferai que de manière humaine, pas de manière surnaturelle, pas de manière chrétienne. Je prendrai l'exemple de la métaphore du désert. On m'a dit un jour qu'il y avait des gens qui mouraient dans le désert de soif sans s'en rendre compte. Voilà, ils marchent, puis à un moment donné, pouf, par terre. En fait, l'eau s'est évaporée en eux. On dit ça. C'est exactement pareil pour la vie spirituelle. On peut marcher, tout va bien, on ne s'en rend pas compte. Puis un jour, pouf, on est complètement mort spirituellement. Parce qu'il n'y a plus de vie surnaturelle en nous. Et celui qui commence à s'imbiber de vie surnaturelle, vous sentez comme un climat difficile à vivre l'athéisme. vous sentez que c'est difficile à vivre avec des non-chrétiens. Non pas parce qu'ils ne sont pas sympas, on peut vivre avec eux, c'est très bien. Vous sentez à un moment donné qu'on n'échange pas, et plus vous approfondissez votre foi, vous sentez que vous n'êtes pas forcément tout à fait à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on devient de plus en plus des vivants, et on sent que l'air est vicié. Et donc, au départ, on ne le sent pas, mais plus on approfondira ça, plus on sentira que choisir la vie, c'est vital pour nous. Et donc, au bout d'un moment, c'est évident, nous fonctionnons qu'avec la vie divine. Celui qui chemine se laisse, en choisissant de suivre le Christ, limite, se laisse conduire, est éclairé par sa vérité, est saisi, et de plus en plus, il est dans la vie. Voilà ce triptyque, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je rappelle que les vertus théologales, le don du baptême qui nous sont donnés au baptême, sont des vertus, sont des dons de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas les produire par nous-mêmes. Je peux essayer d'être courageux, d'être patient, d'être tempérant, d'être bienveillant, de rendre justice à chacun, à ce qui lui est dû, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des vertus cardinales, c'est-à-dire des habitudes qui construisent l'être humain, des bonnes habitudes. À la différence des vices, ce sont des mauvaises habitudes. Et quelqu'un qui tombe dans le vice et qui s'enterre dans le vice, c'est plus dur de s'en sortir, il devient vicieux. Celui qui prend des bonnes habitudes, il se muscle à faire le bien, selon nos profils, et il devient vertueux. Et après, le bien est de plus en plus facile. Et Dieu se sert de ça pour nous aider à avancer selon nos qualités. C'est pour ça que le chemin que Jésus nous propose est toujours une collaboration, est toujours un chemin particulier. Mais toujours est-il, ce sont des vertus naturelles. Tandis que ce que nous propose Dieu en plus, un kit pour avancer dans la vie divine, dans la lumière surnaturelle, la vérité, et être conduit, et pas simplement je fais ma carrière, être conduit et se laisser conduire, et garder la ligne de mire, la lumière, quoi qu'il arrive, devant nous, sans l'atrophier, comme le vrai but à aller, tout ça, ce sont les vertus théologales. C'est un don surnaturel qui nous est donné au baptême, qui sont la foi, l'espérance et la charité. L'espérance, c'est la vertu qui nous aide à marcher, c'est-à-dire à désirer la lumière que Dieu promet, à ne jamais perdre le cap et à nous mettre en mouvement, à croire que Dieu va nous aider sur le chemin, qui nous assiste et qui nous guide. Et on ne peut pas prévoir le chemin à l'avance. Dieu nous montre que le pas que nous avons à faire. Donc les gens qui se posent par exemple des questions de vocation, d'avenir, de métier, de carrière, mais qui projettent sur 15, 20 ans, ce n'est pas une vie chrétienne. Dieu me demande, remets-toi pour demain, tu peux être prévoyant, mais c'est l'aujourd'hui qui est important. Et le risque de la vertu théologale d'espérance, les tentations sont de deux ordres. La première, la désespérance. C'est-à-dire, oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais j'ai tellement péché, Dieu veut plus de moi, ou j'y arriverai jamais, etc. Mais non, mais Dieu pourvoit. Dieu aide en son temps, comme il le veut. Donc je n'ai pas à baser ma confiance sur moi-même, mais avoir espoir que Dieu donnera. Mais pas espoir, avoir la ferme espérance que je serai un saint, que j'irai vers cette lumière, que je verrai le soleil sur la montagne, et que je serai pareil au soleil. Donc ça, c'est sûr. Vertu d'espérance. Une autre tentation de la vertu d'espérance, c'est la présomption. Ouais, mais alors si Dieu m'aide à monter la montagne, on va y aller cool. Et puis, à la rigueur, je peux pactiser avec les petites pierres, les rocailles sur le chemin, et m'arrêter de temps en temps. Et non, il faut donner toute sa force, il faut y aller énergiquement. Et nous voyons à ce moment-là que celui qui a de l'espérance s'appuie toujours premièrement sur Dieu, mais veut collaborer à fond avec Dieu, et donc il est prudent, il se méfie de sa fragilité. Il évite tout écueil sur le chemin pour avancer. Il collabore, ce n'est pas un feignant. C'est les deux tentations de la vertu d'espérance. Nous voyons la foi comme une vertu de lumière. Le pape François en parle comme la lumière de la foi, Lumen Fidei dans son encyclique. C'est effectivement une connaissance supérieure qui nous éclaire, qui nous aide à discerner, qui nous aide à croire. C'est la première. J'allais dire même la lumière nous éclaire avant le chemin. On en a un petit peu pour faire le chemin. On pourrait dire que la vérité, je vous ai dit, on peut combiner les éléments, elle se trouve au départ. Je proclame la foi et la personne va se mettre en chemin. Et c'est important de proclamer la foi, de proclamer la vérité, parce que nous rendons un service en libérant, en proposant le chemin libérateur. Donc ça, il ne faut pas être tabou, la foi c'est objectif. Et si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde. Il faut avoir conscience de cela, ce n'est pas vrai pour une catégorie de personnes, c'est vrai pour tous. Et nous voyons aussi que cette vertu de foi, les gens disent, mais j'ai la foi, je n'ai pas la foi, lui il a beaucoup la foi, ce n'est pas vrai. On a la foi depuis le baptême, il faut l'exercer, il faut vivre avec la foi. C'est-à-dire il faut s'habituer au contact avec Dieu. jeu, c'est de la musculation. Il faut s'habituer à être en connexion avec Dieu, à adhérer à ce que nous croyons, à adhérer au contenu de la foi. Et nous aussi, nous adhérons de plus en plus au contenu de la foi, à la lumière. Nous voyons que c'est transformant, que la foi, c'est comme un muscle, ça devient de plus en plus facile. Mais ça nous est donné d'abord. C'est un don de Dieu, et Dieu nous demande après notre collaboration. Vous comprenez ? Et quand nous adhérons à cette foi, quand nous cheminons, quand nous évitons les écueils, quand nous parlons de la foi pour libérer, quand nous agissons en imitation à Jésus, qu'est-ce qui se passe ? C'est la vie divine en nous qui est diffusée. Et cette vie divine en nous qui est diffusée, c'est la charité, la troisième vertu. Et nous ne pouvons pas inventer cette charité par nous-mêmes. C'est une hérésie très souvent contemporaine. Ce n'est pas une hérésie dans la tête, on dit que Dieu est amour, mais dans la pratique. C'est-à-dire, je vais croire, puis après je vais agir. Et souvent on sent que c'est disproportionné. Parce qu'en vain, souvent on croit que le christianisme c'est une morale. C'est complètement faux. Le christianisme d'abord, c'est se laisser transformer par Jésus et aimer avec l'amour de Jésus. Et donc en gros, mes activités sont proportionnelles, mon rayonnement d'activité est proportionnel à mon rayonnement d'union avec Jésus. Le père Marie-Eugène disait, les grands contemplatifs sont les plus grands actifs. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne vivons pas simplement de bons sentiments humains, nous vivons de charité divine. Et cette charité divine peut parfois même purifier nos bons sentiments humains. Il y en a qui avaient la charité virile. Il faut voir la charité de Mère Teresa. C'est magnifique et en même temps, ça décapait. Ça pouvait dire les quatre vérités sans aucun scrupule. Parce que c'était purifié par la lumière de Dieu. Et c'était au-delà du bon sentiment humain. Et vous voyez, souvent, nous confondons le bon sentiment, la manière de faire humaine, avec la charité. Non, non, nous faisons du moralisme, qui est conditionné par notre époque. Non, nous devons vivre de vie divine, de charité divine. Et dans ce chemin d'ascension, qui est aussi notre propre chemin de conversion, le Seigneur va nous éclairer progressivement sur ce qu'est le bon sens à donner à telle personne, la bonne lumière. Parce que quelque part, nous en aurons fait nous-mêmes l'expérience. Et le Seigneur le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi, tu t'auras été éclairé par la lumière divine. Tu auras fait ce chemin d'espérance et tu auras reçu cette vie en toi de grâce. Et tu vas communiquer ça aux autres. Voyez ? Donc nous voyons donc ce processus de vie baptismale qui est inscrite dans le chemin, la vérité, la vie. Et à chaque moment, c'est Jésus qui nous illumine, c'est Jésus qui nous éclaire. C'est Jésus-vérité qui nous saisit. C'est Jésus qui se communique à nous, qui est notre élan, notre vie. Et c'est Jésus qui nous fait faire le chemin, qui nous montre le chemin et qui est lui-même le modèle du chemin. Vous voyez, Jésus, il est partout. En fait, Jésus saisit toute notre vie. Vous pouvez relire toute votre vie là-dessus. Alors, je voudrais terminer par quelques petits points qui peuvent nous aider à avancer sur le chemin, à être éclairés par la vérité et à grandir dans la vie divine. Je parlerai de ce que j'appelle le carnet à paroles et le carnet à points d'effort. Le carnet à paroles, je vous invite à avoir un carnet sur vous où vous puissiez noter les paroles de Dieu qui vous touchent. Ça peut être pendant l'Eucharistie. C'est un moment par excellence où Dieu parle. Ça peut être dans votre Lectio Divina, votre lecture personnelle de la parole de Dieu. Ça peut être quand quelqu'un vous parle de Dieu avec la parole ou des paraphrases, on sent que ça vient de Dieu. Vous pouvez les noter, vous datez cela. Vous pouvez noter les événements qui vous arrivent douloureux ou heureux. Ça se trouve, ça fait partie du chemin. Ça peut être un passage où vous voyez le paysage, comme ça peut être un tunnel qui est nécessaire pour vous. Vous notez tout cela et vous relisez tout cela parce que quand on fait le chemin, on ne voit pas le chemin qu'on fait sur le moment. On est comme Israël, comme le peuple des croyants, il nous faut faire des relectures. C'est-à-dire, c'est comme la Bible c'est une éternelle relecture de la présence de Dieu qui chemine avec nous. Et donc, si nous faisons une relecture petit à petit, nous discernerons ce qui est de notre propre imagination, nos propres craintes, nos propres questions qui ne sont pas l'œuvre de Dieu, et puis des fois une petite perle évidente ou pas, qui effectivement est de l'œuvre de Dieu. Et souvent, l'œuvre de Dieu se répète. Parce que Dieu sait que nous sommes sourds et aveugles et que nous avons besoin d'illumination pour comprendre de mieux en mieux, d'avancer pour entendre de mieux en mieux. Et donc, il répète ce qu'il dit. Et souvent, quand il le répète un certain nombre de fois, on se dit « Ah là, ça vient de Dieu ». Et là, on se dit « Est-ce que j'ai obéi alors à la parole de Dieu ? Si je dois me laisser conduire, ce point-là, le Seigneur m'invite à le vivre. Et c'est comme ça que nous voyons le chemin se personnalise pour chacun, ce n'est pas un chemin standard, et nous commençons à nous laisser guider. Donc il est très important d'avoir un carnet à parole. Dans ce carnet, on peut se questionner sur la parole de Dieu, essayer de la recevoir, essayer de l'imiter. Parce que c'est un chemin de conformité qui ressemble au chemin de la Vierge Marie, elle méditait tout dans son cœur. Nous retenons le Seigneur, et dans les moments de sécheresse, où il semblerait que nous n'avons plus d'essence pour avancer sur le chemin, nous nous rappelons l'œuvre de Dieu que Dieu a fait pour nous, et ça nous encourage à tenir dans la vertu d'espérance. C'est très important. Il y a des gens qui ont la foi, et jour au lendemain, ils n'ont plus la foi. Oh, ils ne se souviennent pas ce que le fait le Seigneur la veille. Ils ne se souviennent pas que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Et dans la vie spirituelle, c'est comme un oscilloscope. C'est normal. Et donc, il faut dépasser l'affectif pour passer à une vie constante de foi de plus en plus grande. Au-delà de tout, envers et contre tout, Seigneur, tu me guides. Loué sois-tu. Et le grand saint, c'est celui qui peut dire une galère ou une joie, loué sois-tu Seigneur, tu as donné, tu me conduis. Vous voyez, il y a une espèce de confiance qui s'installe de plus en plus. Ça, c'est le carnet à parole, ça vous aidera. Et puis, pour collaborer au chemin, vous pouvez aussi collaborer avec le Seigneur, faire des points d'effort concrets. Souvent, on croit qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, elle est beaucoup plus connue qu'on ne croit, objectivement. Elle est connue d'abord par le décalogue, et la déclinaison du décalogue, les 10 commandements, les préceptes moraux de l'Église, dans mon état de vie, mes obligations de mon devoir d'État, et de les vivre dans la charité. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez objectif, qui est la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas un à côté, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est la vérité objective de la lumière qui m'éclaire. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Si j'écoute la parole de Dieu, et parce que le Seigneur me rejoint là où j'en suis ou pas, il va pouvoir privilégier un point ou le décliner d'une manière, et j'allais dire c'est une vérité objective, mais personnalisée. Et là, le Seigneur me demande de l'entendre. Alors souvent, on ne sait pas. Alors j'invite ceux qui ne savent pas à prendre un point concret d'effort. Pas forcément le plus dur, parce que le plus dur, c'est peut-être trop dur, mais un point où nous pensons pouvoir le faire avec la grâce de Dieu et se le coltiner et persévérer, le reprendre. Noter tous les jours si on a fait un point d'effort. On se donne du courage pour avancer sur le chemin et demander la grâce de Dieu. Et peut-être il s'avérera, dans le temps, au départ on prend ce point, j'allais dire, arbitrairement. Et puis dans le temps on va voir si ce point-là, c'est le bon point. Est-ce que ça nous fait grandir ? Ou est-ce que c'est vraiment ce que Jésus veut ? Peut-être que Jésus va confirmer ce point. Ou peut-être qu'il va le mettre autrement, en disant, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça pour toi, c'est autrement. Et alors, si nous y répondons, à ce moment-là, Dieu va nous aider dans notre sanctification. Voyez ? Et donc, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de participer. Donc, je rappelle, prenez un carnet à parole et un carnet à point d'effort concret pour avancer sur le chemin. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre du chemin de la vérité et la vie. Que nous soyons attentifs à sa parole, que nous y répondions, que nous laissons transformer, et que nous vivions de son union qui est la vie transformante. Amen.